Avec Monseigneur Jacques Perrier.
Bonjour, et eh bien dans cette semaine qui nous achemine à la grande fête de la Pentecôte, j'ai choisi d'évoquer les liens tout particuliers entre la Vierge Marie et l'Esprit-Saint. Je disais dans la première émission que bien évidemment toutes les actions de Dieu sont trinitaires, mais qu'on peut quand même, ne serait-ce que pour penser, il n'est pas interdit de penser, bon, et la tradition chrétienne le fait depuis 20 siècles, il n'est pas interdit de penser à une certaine affinité particulière entre Marie et l'Esprit-Saint. Donc aujourd'hui, la Pentecôte, ça va de soi. Ça va de soi, ça va pas tellement de soi quand même. Bon. Contrairement aux représentations tout à fait classiques, bon, Marie est sans doute présente effectivement le jour de la Pentecôte, mais elle n'est pas au centre de l'événement. En cela, les représentations sont un peu trompeuses, si je peux me permettre. Tout particulièrement, prenez la mosaïque de la Pentecôte à la basilique Notre-Dame du Rosaire, ici à Lourdes. Le récit de Saint-Luc, les Actes des Apôtres, ne disent pas cela. Qu'est-ce qu'ils nous disent, en fait? Ils disent qu'après l'ascension, les disciples, les onze, se réfugient au Cénacle, et ils sont en prière comme Jésus le leur a demandé. Il leur a dit qu'il ne fallait pas partir en mission avant d'avoir reçu l'Esprit-Saint, parce que sinon, ils auraient pu répéter des mots, mais ils n'auraient pas été de vrais témoins de la parole, parce que jusqu'à la Pentecôte, ils n'ont pas vraiment compris ce qui s'était passé. Ils étaient bien contents d'avoir revu Jésus, ils auraient bien voulu le garder. Mais il faudra vraiment qu'il y ait la lumière de l'Esprit-Saint pour leur ouvrir l'esprit. Donc, qu'ils attendent et qu'ils prient. Et il y a les disciples, et puis il y a un certain nombre de femmes, dont Marie, mère de Jésus. Donc, manifestement, elle est là. Aucune raison de penser qu'elle se serait absentée au jour où l'Esprit-Saint va se manifester sur les apôtres, les disciples, en leur donnant l'Esprit-Saint. Mais, oui, elle n'est pas au centre de la scène. Est-ce qu'elle a besoin, elle, de recevoir l'Esprit-Saint? D'après ce que j'ai dit dans l'émission précédente, je crois que non. L'Esprit-Saint, il est en elle. Elle est la demeure de l'Esprit-Saint depuis l'instant même de sa conception. C'est le privilège de son Immaculée Conception. Donc, elle est là, on pourrait dire, elle est là discrète. Bon. C'est la femme dans la maison, elle ne veut pas occuper forcément le centre du tableau. D'ailleurs, dans certaines icônes, Marie n'est pas représentée. Tout le récit des Actes des Apôtres est centré sur Pierre. C'est Pierre qui ensuite va prendre la parole, va sortir et annoncer la mort et la résurrection du Seigneur, et tout le livre des Actes des Apôtres dans sa première partie est centré sur la personne de Pierre. On ne revoit pas d'ailleurs Marie. Quand elle est au Cénacle, elle ne prononce pas de parole. Elle est présente, mais elle ne dit pas de parole. La dernière parole prononcée par Marie, qui nous a été rappelée, c'est celle de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Bon, alors on me dirait, ça c'est pas bien, il n'est pas pieux, cet évêque n'est pas très pieux, il n'est pas très marial, etc. Pourtant, l'auteur des Actes des Apôtres, c'est saint Luc, c'est-à-dire le même qui nous a relaté l'Annonciation. Donc Luc est au contraire tout particulièrement marial. Donc je pense que c'est quand même significatif qu'il ne fasse pas de Marie le témoin. Bon. Elle est la mère de l'Église. Comment ne serait-elle pas la mère de l'Église? Je dirais de deux façons, on pourrait le dire de deux façons. Tout d'abord, si on prend l'analogie de saint Paul, l'Église c'est le corps du Christ, et donc puisqu'elle est la mère du Christ, elle est la mère du Christ plénier qu'est l'Église. Donc on pourrait dire ça, c'est un peu le raisonnement théologique. Elle est la mère de l'Église aussi parce que à la croix, alors là c'est la tradition de saint Jean, Jésus l'a donnée pour mère aux disciples bien-aimés, représentation symbolique de tous les disciples, et il dit aux disciples, voici ta mère, et il est dit à partir de ce moment-là que le disciple l'a pris chez lui, l'a prend avec lui, et donc ils sont ensemble, ils seront indissociés. Et à la croix, Jésus nous donne à la fois une mère, voici ta mère, et l'Esprit Saint, puisque dans la symbolique de Saint Jean, du côté transpercé de Jésus coule le sang et l'eau, c'est-à-dire les signes même des sacrements. Et puis, il dit, il rendit l'esprit, donc il transmet l'esprit. C'est pas simplement son dernier souffle, avec toute l'ambiguïté. J'avais évoqué dans une émission précédente qu'à la Genèse, le souffle qui est au-dessus de l'abîme, au début de la création, la tradition chrétienne y a vu une annonce de l'Esprit Saint. Le souffle, c'est une des images pour dire l'esprit. Eh bien, il nous a transmis à la fois sa mère, il nous a donné sa mère, et il nous a donné son esprit. On pourrait dire, là, il y a une sorte, qu'on pourrait dire, d'affinité chronologique, biographique, intentionnelle de la part de Jésus. Alors voilà, Marie est à la Pentecôte et elle assiste certainement avec émerveillement à la suite, au fond, de l'œuvre qui a commencé par l'incarnation au jour de l'Annonciation. Alors là, ce n'est pas une nouvelle incarnation du Christ, mais c'est le prolongement, on pourrait dire c'est un prolongement de l'incarnation, puisque l'Esprit-Saint va engendrer le corps du Christ, qui est l'Église, à travers les siècles. Au revoir.